C'est vraiment une entrée monumentale
sur la première.
Depuis 50 ans, des archéologues suisses fouillent à l'île d'Eubé, à 2 heures de route d'Athènes.
C'est spectaculaire, c'est vraiment très émouvant.
Une fouille assez unique en Grèce.
Il s'agissait du dernier sanctuaire cité dans les textes anciens à ne pas avoir été localisé.
Monumental.
Joanne Ducey.
Direction la Grèce pour ce nouveau numéro de Monumental pour découvrir l'histoire de l'un des derniers sanctuaires connus par les textes anciens. Une histoire passionnante, histoire d'une découverte qui nous est racontée par notre invité.
Sylvain Fachard, professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne et directeur de l'École suisse d'archéologie en Grèce.
Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler du sanctuaire d'Artémis à Marésia. Nous sommes sur l'île d'Eubé. C'est une grande île.
Oui, l'Eubée se trouve en mer Égée, au nord-est d'Athènes. Elle est séparée du continent grec par un bras de mer étroit, que l'on nomme le golfe Euboïque et qui est souvent appelé mer d'Eubée chez certains poètes. Alors, sa géographie est très variée par sa taille. Elle fait 160 km de long, soit à peu près la moitié de la Suisse d'est en ouest, pour une superficie d'environ 3700 km², ce qui correspond à peu près à la superficie du canton de Vaud. Voilà, pour vous donner une idée.
Combattre les flammes à main nue.
Un tuyau d'arrosage. Personne n'a un tuyau d'arrosage. Non, il n'y a rien.
Et les flammes d'avancer sur l'île de Bé à 200 km de la capitale grecque. Avec un brasier actif depuis 6 jours, une seule solution, l'évacuation par mer des résidents et de quelques touristes afin d'éviter des victimes.
Sylvian Fachard, on vient de l'entendre dans cet extrait du journal de la RTS. L'Eubé a fait la une de l'actualité durant l'été 2021 en raison des feux gigantesques.
Oui, alors malheureusement les incendies l'été sont en fait récurrents en Grèce. Il faut dire que cette année les chaleurs étaient terribles entre juillet et août avec des canicules qui s'étendent sur plusieurs jours à plus de 40 degrés. Ça c'est un phénomène relativement nouveau. Et la presse a baptisé ces incendies ces mega fires, hein, ces gigantesques feux. Et malheureusement je crois qu'ils vont se multiplier ces dernières années à cause des températures.
Feux qui ne vous ont pas empêché de vous rendre sur place pour procéder à des fouilles.
Alors il y avait le Covid avant les feux, ce qui n'était pas simple. On a quand même pris le pari relativement risqué avant la campagne de faire venir une trentaine d'étudiants de toutes les universités suisses. Avec des restrictions assez sévères, mais ça a payé, on a pu donc fouiller sans problème. Ensuite, il y a eu les feux, ce qui est évidemment un drame pour le pays et pour l'Eubé, puisque des milliers de kilomètres carrés sont vraiment partis en fumée. Alors, on a été impacté de façon indirecte à cause de la fumée, à cause des pluies de cendres qui sont tombées sur le site pendant plusieurs jours. Avec la chaleur en jour, il y a même un poteau électrique qui s'est enflammé tout seul. Donc voilà, des conditions assez particulières, mais tout a bien été.
Au nord-est de l'Attique, s'allongeant du nord au sud dans les eaux de la mer Égée, l'Eubée. Il y a plus de 2000 ans, cette île avait beaucoup plus d'importance que de nos jours. Érétrie et plus à l'ouest Chalcis en étaient les deux villes principales.
Le sanctuaire d'Artémis à Marésia se trouve donc sur l'île d'Eubé. On n'est pas très loin de l'ancienne cité d'Érétrie.
Oui, alors la cité d'Érétrie est une polis, donc ce qu'on appelle une cité-état. Cette cité contrôlait un territoire qui était assez vaste. Ce territoire était délimité par des frontières politiques et ce territoire nourrissait, si vous voulez, la population de la cité. Le sanctuaire d'Amarintos se trouvait donc dans la bourgade d'Amarintos, qui était l'une des 60, communes qui peuplaient le territoire d'Érétrie.
Érétrie, c'était une puissance commerciale assez importante durant l'Antiquité.
Oui, alors il faut imaginer le monde grec vraiment comme une constellation d'environ 1000 cités-états qui sont répartis tout autour du pourtour de la Méditerranée, comme des grenouilles autour d'une mare, hein, pour reprendre la célèbre et heureuse formule d'Hérodote. Alors, chaque cité avait ses caractéristiques propres, les cités ont des tailles différentes, on peut avoir une cité de quelques kilomètres carrés, et puis des méga-états ou des méga-cités comme Athènes ou Sparte qui atteignent plusieurs milliers de kilomètres carrés. Alors, sans rentrer dans les jugements de valeur, on peut dire que la ville d'Érétrie est une cité importante du monde grec. Alors, elle est importante par sa taille d'abord, parce que c'est l'une des 10 plus grandes cités en termes de territoire, hein, du monde grec. Elle est importante aussi d'un point de vue historique, puisqu'elle a joué un rôle pionnier dans la diffusion de l'alphabet grec et l'établissement de réseaux commerciaux entre la mer Égée, l'Italie du Sud et toute la côte orientale de la Méditerranée. Donc elle est importante enfin dans sa contribution aussi à l'histoire grecque et à l'archéologie grecque, puisqu'Érétrie fait partie, grâce notamment aux fouilles que l'on conduit depuis plus de 60 ans sur le site, c'est l'une des cités grecques, je dirais, les mieux connues d'un point de vue archéologique, historique et démographique.
Située à 7 stades de ses murs, on peut juger du degré de puissance auquel s'étaient élevés les Érétriens quand on lit sur une stèle dédiée par eux dans le sanctuaire d'Artémis à Maricia l'inscription qui atteste que lors de leur fête annuelle défilaient 3000 hoplites, 600 cavaliers et 60 chars. Strabon.
On savait qu'à Amarentos, à quelques kilomètres d'Érétrie, il y avait un sanctuaire. Ça, c'est une information qu'on avait.
Oui, absolument. Donc les sources littéraires attestent son existence. On peut mentionner Strabon, l'auteur Tite-Live, l'auteur Pausanias aussi au IIe siècle de notre ère. Puis enfin toutes les inscriptions qui sont gravées sur pierre et qui ont été trouvées à Érétrie et à Amarentos et qui mentionnent le sanctuaire comme lieu de culte et d'exposition de ces mêmes textes.
Sanctuaire qui était consacré à Artémis, c'était une déesse qui était très populaire.
Alors, ça dépend où dans le monde grec. Mais oui, on peut dire qu'elle était populaire, et surtout, elle était très populaire dans le territoire d'Érétrie, mais également sur tout le pourtour de cette mer d'Eubée, de ce golfe euboïque, avec des sanctuaires importants. Je pense en particulier à celui de Brauron, qui se trouve au nord-est d'Athènes, qui était populaire auprès des jeunes filles et des enfants et des jeunes mères athéniennes. Celui d'Aulis aussi, qui est juste en face de Chalcis et qui est le point de départ célébrissime, je dirais, de la flotte grecque commandée par Agamemnon au début de la guerre de Troie. Et le poète Stas, au 1er siècle de notre ère, parle de la mer d'Eubée, je cite, dont les rives sont très chères à Artémis, qui erre à travers les montagnes. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle est aussi populaire. Alors Artémis, c'est une déesse assez fascinante et captivante. Alors elle est bien sûr connue du grand public comme la déesse de la chasse. C'est la protectrice du monde sauvage et des animaux. Mais c'est bien plus que cela. On s'adressait à Artémis dans des situations, je dirais, difficiles ou incertaines. On s'adresse à elle dans le parcours de la vie, lorsque l'on passe surtout au stade adulte. Donc les jeunes hommes deviennent guerriers ou les jeunes adolescentes deviennent des mères. Et ces caractéristiques de la déesse sont au fait autant d'attentes des mortels vis-à-vis de la divinité. Alors, l'accouchement dans l'Antiquité est une phase difficile. Artémis elle-même, on peut le rappeler, naquit dans des circonstances assez tourmentées. Donc elle est née à Délos avec son frère Apollon. Et leur mère Leto était persécutée par la jalousie d'Héra, et aucune île des Cyclades ne voulait accueillir cette mère pour donner naissance à ses deux enfants. Alors, c'est finalement la petite île désertique et on va dire misérable de Délos qui accueille cette mère, qui peut enfin donner naissance à ses deux jumeaux, mais Héra est pas loin et puis elle va tourmenter cette phase puisque c'est seulement après 9 jours et 9 nuits que Leto va pouvoir donner naissance aux deux jumeaux. Alors, dans certains textes, c'est Apollon qui sort en premier, dans d'autres, c'est Artémis qui naît la première au fait et qui aide sa mère à accoucher d'Apollon. Et depuis ce jour, Artémis vient en secours des femmes pendant l'accouchement. Donc elle protège aussi les nouveau-nés et les nourrices, à une époque où, il faut le rappeler quand même, le taux de mortalité est très important. Donc on va rechercher, si vous voulez, la bienveillance d'Artémis face à l'inconnu qui caractérise la naissance, mais aussi le passage de l'enfance à l'âge adulte et d'un stade de vie à un autre, y compris la mort.
Michel Colombier, l'Antiquité.
J'ai dû fermer les yeux trop longtemps et j'ai dépassé le mur du temps. Je viens de faire un bond de 3000 ans. Je me retrouve dans un monde différent où la vie a changé d'aspect. Les sont transformés, ils sont bons, ils ressemblent à des dieux de l'Antiquité. Elles leur sont poussées dans le dos et dans leurs deux grands yeux c'est insolent. Un triangle de feu brille intensément. L'architecture de la nature s'est trouvée dans ces données. Ils ne sont pas laids, ils sont bons comme les dieux de l'Antiquité.
Aujourd'hui dans Monumental, le sanctuaire d'Artémis à Marintos, avec Sylvian Fachard, professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne.
Sur la première, Monumental.
On parle d'un sanctuaire. Qu'est-ce que la fonction ou les fonctions d'un sanctuaire ?
Alors, sanctuaire, c'est avant tout un lieu saint. Hieron en grec. Un sanctuaire est généralement bâti et il est délimité par un péribole qu'on appelle téménos et donc d'un accès réservé. Alors, ces limites protègent de la souillure, démarquant vraiment un espace privé et réservé, qui est protégé en quelque sorte par la divinité. Donc quand on pénètre dans un sanctuaire, si vous voulez, on est vraiment chez la divinité. On doit respecter des règles, un code, et il faut vraiment éviter les actes impies. Donc le sanctuaire grec, que l'on pourrait en quelque sorte comparer avec un monastère médiéval, va se composer de plusieurs bâtiments qui sont le fruit d'aménagements architecturaux successifs. Mais la partie la plus importante du sanctuaire, c'est le temple et l'autel. L'autel où se tiennent les sacrifices, avec évidemment le sacrifice d'animaux pour la déesse, mais le temple, naos en grec, donc qui peut servir de demeure provisoire à la divinité, qui est même représentée parfois par une statue de culte. Alors autour de ce noyau central, on trouve des bâtiments annexes, des portiques souvent pour délimiter cet espace qui peut être très grand, hein, tout en offrant de l'ombre en même temps et une protection aux pèlerins. Et les sanctuaires dans le monde grec sont aussi des lieux politisés, en partie contrôlés par l'État, qui va l'utiliser pour y afficher des décisions politiques qui sont gravées sur pierre, les fameuses inscriptions, et y faire garder même une partie du trésor public. Ce sont enfin des lieux de rassemblement populaire, et on se rend dans les sanctuaires, souvent une fois par année, voire plus souvent, au cours d'une grande procession qui va réunir une grande partie de la population. Et au fait, si vous voulez, dans un sanctuaire, les mortels trouvent un espace privilégié pour s'adresser, communiquer avec la divinité et bien entendu s'attirer sa bienveillance.
Je chante Artémis au fuseau d'or, tumultueuse, vierge vénérable qui perce les cerfs, qui se réjouit de ses flèches. Sœur d'Apollon à l'épée d'or, qui, par les montagnes boisées et les sommets battus des vents, se charme par la chasse, tend son arc tout en or et lance des traits mortels. In America Artemis.
Ceux qui se rendaient au sanctuaire d'Artémis, qu'est-ce qu'ils attendaient d'elle ?
C'est une bonne question. C'est peut-être trop tôt pour y répondre. C'est vraiment les objets, ce sont les objets de fouilles qui vont nous permettre de répondre à cette question. J'ai évoqué auparavant plusieurs attentes de la population vis-à-vis d'Artémis. Artémis, vous savez, dans le monde grec, elle a plusieurs personnalités. Celle d'Eubée est encore relativement mal connue. Et je crois que c'est grâce aux offrandes, grâce aux dépôts, aux objets qui ont été déposés dans ce sanctuaire qu'on va pouvoir, je crois, clarifier les attentes de la population à travers justement les offrandes qui sont faites à la déesse.
Par contre, ce qui est certain, c'est que la foule était présente.
Oui, alors on sait grâce au texte que on y venait de toute l'Eubée et même d'au-delà dans le monde grec. Alors, faut dire qu'une fois par année, il y avait un grand festival appelé les Artémisia. Et pendant ce festival, c'est donc toute la population érythréenne, hommes, femmes, enfants, qui participait à cette procession qui rejoignait le sanctuaire depuis la ville d'Érythrée. Alors, y participaient également les notables, des musiciens, des soldats. Et Strabon, l'auteur Strabon, mentionne une procession plus ancienne qui réunissait 3000 soldats, plus de 600 cavaliers et environ 60 chars de guerre. Et on sait qu'au IVe siècle, le concours fut même rehaussé d'un concours musical, donc il y avait aussi de la musique et donc de la danse, et des prix qui étaient offerts par la cité attiraient justement des artistes de toute le B et même d'au-delà. Donc il faut vraiment imaginer une grande fête qui durait plusieurs jours et qui réunissait une population bigarrée. Ça devait être un spectacle assez extraordinaire.
Ce sanctuaire d'Artémis, il a été longtemps recherché.
Oui, dès la fin du 19e siècle, notamment par les premiers archéologues américains, non pas suisses, qui étaient actifs sur le site d'Érythrée et qui se mirent, bien entendu, avec les auteurs antiques à la main, à sa recherche, sans succès. Il y a eu d'autres initiatives dans le courant du 20e siècle, sans pour autant localiser le sanctuaire, jusqu'aux dernières tentatives des années 2000, qui ont enfin permis de percer ce mystère topographique.
Vous disiez que Strabon a donné plusieurs informations sur ce sanctuaire. Il a tout de même mené les chercheurs sur une fausse piste.
Et ce n'est pas de la faute de Strabon. Donc Strabon, peut-être faut préciser que lui n'a pas visité le sanctuaire. En revanche, il a été en mesure de consulter des textes à l'époque, aujourd'hui disparu. On peut penser à l'auteur Apollodore d'Athènes, mais peut-être même aussi un texte disparu qui s'appelait « La Constitution des Érythréens » et qui fut rédigé par Aristote et son école. Et comme l'a suggéré Denis Knopfler, qui a joué un rôle très important dans la découverte du sanctuaire, c'est sans doute à travers Aristote, qui a d'ailleurs terminé sa vie, Ralkis en Eubée, que Strabon a pu éventuellement recopier la distance en stade, qui est une unité de mesure utilisée par les Grecs anciens, qui séparait donc l'Artémision de la ville d'Érythrée.
Et là, il y a un problème de traduction.
Absolument. Alors, on doit cette relecture du texte de Strabon à Denis Knopfler, qui est professeur honoraire à l'Université de Neuchâtel.
Archéologue, épigraphiste.
Au Collège de France, tout à fait. Alors, dès 1969, il était très jeune et il attire l'attention des savants sur l'importance du lieu et propose une nouvelle hypothèse quant à la localisation de ce sanctuaire.
Extrait du film « À la recherche du temple perdu ».
Il y avait toutes sortes d'indices archéologiques, épigraphiques, des trouvailles fortuites depuis un siècle qui semblaient toujours aller dans la même direction, à plus de 10 km vers l'est, c'est-à-dire à l'autre extrémité de la plaine d'Érythrée.
Alors, il faut quand même beaucoup de courage pour corriger des textes publiés aux belles lettres, par exemple. Et il montre que la distance donnée dans le texte de Strabon est le fruit d'une erreur. Alors l'erreur n'est pas de Strabon, mais de copistes médiévaux qui se trompèrent de lettres en recopiant le nombre de stades. Il ne s'agirait pas donc de 7 stades, chiffre transcrit en grec par la lettre Zeta, soit environ 1,4 km, mais c'est plutôt la lettre Xi qui ressemble beaucoup au Zeta en cursive, et la lettre Xi, c'est 60. Donc, Denis Knopfler a dit il faut éventuellement repousser la position de ce sanctuaire, non pas à 1,4 km, mais à 60 stades, soit une distance comprise entre 10 et 12 km. Alors, hypothèse brillante, acceptée par ses pairs et par tout le monde, progressivement, pas forcément tout de suite. Mais évidemment, cette hypothèse, aussi brillante soit-elle, n'a pas résolu le problème en fait du sanctuaire, puisque à cet endroit, 12 km à l'est d'Érythrée, il fallait encore localiser les vestiges enfouis dans le sol et totalement invisibles en surface, ce qui explique pourquoi il n'a jamais été localisé auparavant.
Archéologique sur ce site.
Alors, il y a eu plusieurs tentatives, déjà à la fin du 19e siècle, mais au mauvais endroit. Mais on va dire que depuis la correction de Denis Knopfler, il ne s'est pas passé grand-chose pendant plusieurs décennies. Ce n'est absolument pas de sa faute. C'est simplement que pour pouvoir mener des recherches en Grèce, il faut d'abord acquérir des terrains. Il faut des moyens et c'est une opération qui est relativement lourde à mettre en place.
Sylvian Fachard, directeur de l'École suisse d'archéologie en Grèce et professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne.
Alors, dès 2003, j'ai eu la possibilité de mener ce qu'on appelle des prospections géophysiques dans les environs de la colline dite de Paléoclisiès, à savoir les vieilles églises, en compagnie justement de Denis Knopfler et d'un collègue qui s'appelle Pierre Jex. Alors, cette colline, elle a accueilli un site préhistorique important. Et puis, elle se trouve exactement à 12 km d'Érythrée, ce qui correspond à la distance corrigée, on va dire, strabonienne. De plus, autour de cette colline, des découvertes importantes ont été réalisées à la fin du 19e siècle. Alors, sur la base des anomalies qu'on a pu observer grâce aux méthodes géophysiques, on a pu fouiller en premier terrain en 2006. Mais on n'avait aucune trace du sanctuaire. Mais durant la fouille de 2006, j'ai pu noter la présence d'un bloc antique qui avait été illégalement dégagé lors de la construction d'une villa dans ce secteur. Le lendemain, malheureusement, j'ai pris une photo le soir même, mais le lendemain, le bloc avait disparu. Mais tous nos regards étaient désormais braqués sur ce terrain privé. Et l'année suivante, on a pu replacer nos sondages en bordure de cette villa, sans rien trouver malheureusement pendant plusieurs semaines. Et c'est vraiment littéralement le dernier jour des fouilles. Il y a eu un coup de truelle de mon ami Thierry Teria, qui a vraiment révélé les fondations monumentales dans la stratigraphie d'un sondage. Et c'est le début, je dirais, de la découverte archéologique du site. Malheureusement, les travaux furent stoppés pour des raisons essentiellement légales dues à des questions de propriété de terrain. Et donc, on n'a rien pu faire jusqu'en 2012.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez rebouché ?
Alors, il a fallu reboucher, absolument. Et puis, on a pris notre mal en patience, surtout, et on a décidé de faire autre chose. On a essayé de mieux comprendre l'évolution du paysage antique. On sait que les sanctuaires d'Artémis sont souvent localisés en bordure de marais. Alors, on s'est dit, si on peut localiser les marais antiques, on aura peut-être une chance de délimiter un peu plus précisément l'espace du sanctuaire. Et c'est ce qu'on a fait grâce à des carottages. Et on a fait des études assez poussées et on a pu replacer l'évolution du niveau du rivage depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis, on a pu localiser des fameux marais, ce qui nous a permis de nous recentrer vraiment autour de ce secteur de la villa moderne.
Et quand est-ce que vous êtes revenu là où la première découverte a été effectuée ?
Alors, on a pu revenir en 2012. C'était sous la direction de mon prédécesseur, Karl Reber, qui était professeur à l'université de Lausanne jusqu'à cet été. Et les fouilles conduites sous la direction de Karl Reber et sa collègue grecque Amalia Karapaskalidou du ministère hellénique de la Culture se sont étendues entre 2012 et 2020 et elles ont permis de dégager de nombreux bâtiments sur plusieurs milliers de mètres carrés.
Et là, on est certain que c'est le sanctuaire ?
Pas encore. On trouvait des bâtiments, on savait qu'on avait un site assez important, assez exceptionnel, mais il a fallu attendre 2017-2018 pour avoir finalement la preuve écrite. C'est une tuile mentionnant le nom d'Artémis, donc une estampille avec le nom de la déesse, et la découverte de cette tuile fut bientôt suivie de nouvelles preuves écrites sous la forme d'inscriptions.
On avait quelques doutes encore si c'est vraiment le sanctuaire d'Artémis.
Karl Reber, ancien directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce.
Le 18 août, on a trouvé cette tuile ici, avec une estampille où on peut lire de droite à gauche, Art. Et j'ai crié, j'ai dit enfin la preuve, mais on m'a dit bon, c'est seulement Art, il faudrait trouver une estampille entière. Deux jours après, on a trouvé ce deuxième tuile avec effectivement une estampille entière. Et on peut lire maintenant Artemidos. C'était vraiment la grande fête. J'ai dit en fait, enfin nous avons la preuve qu'on est dans ce sanctuaire d'Artémis.
Enfin, grâce à ça, on avait localisé donc le sanctuaire d'Artémis à Maricia. Et mieux encore, il allait pouvoir être fouillé par l'École suisse d'archéologie en collaboration avec l'Euphorie 2B.
Litsa Diamandi.
Κρατάς κλειδί του παραδείσου κι εγώ κλειδί της κόλασης κρατώ. Βάζεις μπροστά εσύ τη λογική σου κι εγώ μπροστά το παραλογισμό. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτή το δουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίφτε τέλεια ρίχτα και το παράδεισό σου στη φωτιά. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτή το δουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίφτε τέλεια ρίχτα και το παράδεισό σου στη φωτιά. Τραβάς εσύ τον ίσιο δρόμο
κι εγώ τραβώ το δρόμο το στραβώ. Εσύ ζητάς να ζήσεις άλλο κόσμο, μα εγώ σε τούτο θέλω για να ζω. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίφτε τέλεια ρίχτα και το παράδεισο σου στη φωτιά. Έλα μαζί μου μόνο μια νύχτα και μη σκεφτείς το ψευτί το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίφτε τέλεια ρίχτα και το παράδεισο σου στη φωτιά. Ψεύτη το ντουνιά. Ρίχτα όλα τα τσίφτε τέλεια ρίχτα και το παράδεισό σου στη φωτιά.
C'est monumental sur la première.
En 2017, une équipe d'archéologues suisses et grecs fait une découverte retentissante. Le sanctuaire d'Artémis à Amarynthos est enfin localisé après plus d'un siècle de recherches menées par des archéologues du monde entier.
Il n'y a pas un temple, mais deux temples superposés?
Oui, alors un premier temple fut construit au milieu du 7e siècle, avant notre ère.
Sylvian Fachard, directeur de l'École suisse d'archéologie en Grèce et professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne.
Et puis il fut détruit aux alentours de 500 avant et remplacé par un nouveau temple, plus grand, mais qui copiait une partie du plan originel. Nous avons donc deux temples qui se superposent l'un sur l'autre.
Et vous arrivez à imaginer comment c'était au temps de sa splendeur?
Alors il faut, en toute honnêteté, il faut beaucoup d'imagination, puisqu'il ne reste malheureusement pas grand-chose de l'élévation de ce temple. Il faut savoir d'une manière générale que tout le sanctuaire a énormément souffert à la fin de l'Antiquité classique, ou plutôt romaine, puisqu'il a servi de carrière pour le site byzantin. On a retrouvé des fours à chaud, donc la majorité, on peut pas le chiffrer, mais je dirais aller 80%, peut-être, ou même plus, des blocs, des marbres, des inscriptions, voire même de statues, ont disparu dans les fours à chaud. Et puis ce qui restait des élévations a énormément souffert lors du remploi à l'époque byzantine. On est venu chercher des blocs d'architecture antique pour reconstruire des maisons, reconstruire des chapelles dans les environs du sanctuaire. Donc il ne reste pas grand-chose en termes d'élévation. En revanche, la chance pour nous archéologues, c'est qu'une grande partie des fondations sont préservées, avec notamment des couches et des dépôts et des fosses. Et c'est grâce à ces informations que l'on espère en connaître davantage sur le culte d'Artémis à cet endroit.
Il est à peine 6 heures du matin et la canicule du mois d'août pèse déjà sur l'île de Bé. Mais les archéologues de l'École suisse d'archéologie fouillent sans relâche sur le site d'Amarynthos, un sanctuaire antique dédié à Artémis, la déesse de la chasse, celle qui aidait les jeunes filles à devenir femmes, et les découvertes pleuvent.
C'est incroyable, on tient une figurine dans les mains qui a été tenue la dernière fois il y a 2500 ans. Ah, c'est spectaculaire, c'est vraiment très émouvant. Ça a coupé le souffle, vraiment, vraiment littéralement.
J'ai rien à dire.
Sur ce site, on trouve aussi un dépôt d'offrandes.
C'est la grande découverte réalisée entre 2020 et 2021. On a découvert à l'intérieur du temple un vase dépôt d'offrandes qui est au fait scellé par la construction du second temple. Et ce dépôt se compose d'offrandes qui sont faites à la divinité dans la seconde moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ces objets sont sacrés car ils appartiennent à la divinité. Ils doivent donc rester dans le sanctuaire. Ils étaient probablement un certain endroit dans le sanctuaire. Et lors de la construction du second temple, on les a placés dans une vaste fosse, dans un large dépôt, dans le lieu saint de la déesse.
L'état de préservation est incroyable.
Oui, alors on a plus de 600 objets, des vases surtout, des figurines en terre cuite de la déesse, des bijoux en or, d'argent, faïence, verre, pierres semi-précieuses, des sceaux aussi en forme de scarabée d'inspiration orientale, ainsi que des armes dont un bouclier assez exceptionnel en bronze qui est très bien préservé. Donc l'état général de ces objets, on va dire, est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça sur une fouille. On a plusieurs vases à figures noires qui viennent d'Attique, qui sont entiers. C'est très rare. On a des statuettes qui sont apparues avec leurs couleurs original, dans un éclat, mais exceptionnel. Et c'est vraiment l'ensemble qui fournit un contexte poignant. On imagine vraiment les individus qui ont déposé ces objets, des femmes, des jeunes filles, des hommes. Et moi, personnellement, j'ai jamais été aussi proche du geste antique. Et c'est très poignant et c'est très émouvant quand on est sur place.
C'est le rêve de tout archéologue.
J'ai jamais rêvé, franchement, trouver un pareil dépôt. Ça dépasse un peu l'imagination. Hein, quand on fait des études, d'archéologie, on lit bien entendu hein, ces grandes découvertes qui ont fait un peu, on va dire, l'histoire de cette discipline. Mais enfin, finalement, on est confronté à la réalité, hein, qui est toujours aussi passionnante. Notre travail consiste à chercher le moindre indice. Mais évidemment, quand on trouve des pareils dépôts, ça dépasse un peu tout. Donc, on est un peu sans voix et on manque de repères, du coup.
C'est rare de trouver autant d'objets dans un tel état de conservation.
Oui, oui, c'est extrêmement rare. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est rare de trouver un dépôt intact, scellé de l'Antiquité et plus jamais touché depuis. La plupart des dépôts à l'intérieur des temples étaient pillés. Il y avait évidemment des pilleurs de temples, comme il y avait des pilleurs de tombes, et on s'attaquait directement à ces dépôts. Donc c'est très très rare de les trouver. Si on a la chance d'en trouver une partie sera quand même détruite. Or là, on a vraisemblablement l'essentiel du dépôt qui a été scellé par la construction de ce temple. Donc c'est vraiment une découverte exceptionnelle.
Et ces objets, ils vont nous permettre d'en apprendre plus sur ce sanctuaire ?
Alors oui, c'est justement une analyse très très poussée de ces objets qui va nous permettre de mieux cerner, je vais dire, le caractère des offrandes qui étaient faites à la divinité et donc de préciser, on va dire, le caractère local d'Artémis ici à Amarynthos.
Vous avez dû faire un inventaire de vos découvertes ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a un catalogue. Alors, faut savoir déjà que je suis le seul à parler aujourd'hui, mais il y a une gigantesque équipe. Hein. Il y a une trentaine d'étudiants des universités suisses. Il y a aussi des étudiants grecs, bien entendu. Et puis, il y a une équipe fantastique hein, de responsables de chantier. Alors, j'en mentionne quelques-uns. Tamara Sadjini, Tobias Krapp, Samuel Verdant, Thierry Teria. Et puis, le projet est placé sous la co-direction de Madame Angeliki Simosi, qui est l'effort des antiquités de B. C'est l'équipe équivalent de notre archéologue cantonal. Donc il y a vraiment une énorme équipe et puis il y a un travail évidemment très serré, très précis de catalogage, mais de restauration aussi. Donc la fouille du dépôt a été très longue, elle nous a pris plus de 8 semaines pendant cette campagne. Alors il faut imaginer qu'on n'est pas évidemment 30 sur ce dépôt, mais on est quand même plus d'une dizaine. Le travail est minutieux, il se fait vraiment au pinceau. Et puis il y a des restaurateurs sur place qui doivent prélever les objets, prélever le bouclier en bronze qui a été trouvé, il y avait des morceaux de bois aussi qui étaient pris dans le bronze. Donc c'est une opération de très grande envergure qui serait impossible à conduire sans évidemment l'aide du Fonds national de la recherche scientifique qui finance nos travaux et puis du secrétariat d'État à la formation, la recherche et l'innovation et même des mécènes privés. Donc c'est une opération très lourde hein, sur le terrain. Il faut pas oublier que j'aime bien le répéter à tout le monde, hein, en jour de fouille, il faut 20 jours d'études derrière. Donc quand vous fouillez pendant 2 mois, vous multipliez tout par 20. Et ces études, c'est des études qu'on fait au musée, restauration, mais aussi laboratoire, bibliothèque, il y a la publication. Donc c'est vraiment une opération sur la longue durée. On dépose les permis 9 mois avant les opérations de terrain, donc ça se prépare vraiment de façon minutieuse.
Et tous ces objets sont toujours en Grèce ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est nos restaurateurs maintenant qui sont au travail. On peut dire qu'ils ont des années de boulot devant eux, littéralement. Donc, on a une équipe qui travaille en permanence pour restaurer ces objets. Donc, il y a ces couleurs hein, exceptionnelles sur ces statuettes. Notamment, on a retiré une magnifique statuette de terre cuite qui peut-être représente Artémis. Et les couleurs ocre, vive, blanche étaient vraiment éclatantes. Mais il faut préserver tout ça, bien entendu. Hein. Donc, ça demande un travail très minutieux, énorme aussi. Donc, il faut des lieux de stockage, il faut des lieux de travail en Grèce même, et tout le matériel reste au musée d'Érétrie où il sera traité pendant les prochaines années.
Monumental. Monumental.
Le métier d'archéologue a évolué avec la technologie ?
Oui, beaucoup. L'archéologie s'est rapprochée progressivement des sciences naturelles dès les années 50, on va dire les sciences dures. Et maintenant, je crois que l'archéologie marche, avance vraiment main dans la main. Elle est influencée aussi par ces méthodes, ce qui est une bonne chose. Alors, on ne tourne pas le dos à l'histoire. Hein. L'archéologie fait quand même partie, c'est quand même une discipline d'histoire, historique. Simplement, on travaille moins avec les sources littéraires et on recherche davantage les sources donc archéologiques. Mais avec ces moyens techniques, je pense à la micromorphologie qui permet d'étudier donc les couches de sédiments en laboratoire, on a le carbone 14, on va essayer de mettre en place aussi des études ADN sur les sédiments, donc vraiment on travaille, on collabore en permanence vraiment avec des scientifiques pour essayer de récupérer le maximum d'informations. Vous savez, la fouille archéologique est un processus destructif. On détruit les couches, donc on détruit notre évidence en cours de fouille. Donc c'est à nous d'être minutieux et de tout enregistrer. Et ce qui a aussi énormément changé en archéologie, ce sont les techniques d'enregistrement des données. Vous savez, le sanctuaire de Delphes a été fouillé à la fin du 19e siècle par l'école française d'Athènes en 10 ans. Maintenant, ça nous prendrait peut-être 150 ans pour faire le même travail. Mais à l'époque, il y avait 200 ouvriers. Ici, nous, on travaille avec 10 ouvriers et 30 étudiants. Donc, les échelles ont changé. On avance très lentement. Chaque couche est notée, analysée. Mais ça rend la discipline, je crois, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante.
Il est important aussi de rappeler que cette découverte du sanctuaire d'Artémis, c'est une découverte majeure. On avait l'impression qu'on avait tout découvert en Grèce.
Ah non, 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 pas du tout. Non, non, on n'a pas tout découvert, vraiment loin de là. Évidemment, dans le courant du 19e siècle, quand la discipline, l'archéologie, encore naissante, on va dire, s'est affirmée, hein, surtout en Europe, il y a eu une sorte de course hein, pour fouiller les grands sanctuaires comme Olympie, comme Delphes, qui étaient aussi des concessions qui étaient données à des pays, à l'Allemagne, à la France, à des puissances coloniales hein, de l'époque. Mais on va dire que les grands sanctuaires, les grands lieux de l'Antiquité ont été bien sûr découverts il y a longtemps, mais il reste énormément de sites à découvrir. Et le sanctuaire d'Artémis à Marinthos en est la preuve flagrante. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à Marinthos même. On est au début d'un processus très long.
Et comment la nouvelle a été perçue cet été et les étés précédents en Grèce ?
Bon, malheureusement, avec le Covid, d'habitude, on fait une journée porte ouverte, on annonce les découvertes, on essaye d'accueillir vraiment le maximum de public sur le site. C'est quelque chose de très important. L'archéologue doit vraiment présenter ses travaux. À cause du Covid, il a fallu déjà limiter l'accès au chantier l'année dernière, donc on n'a pas pu faire ces portes ouvertes. Mais on s'est adressé à la presse, on s'est adressé à vous et on a essayé de communiquer hein, nos découvertes. Alors, évidemment, localement, c'est un impact considérable. Il y a une grande fierté aussi chez les gens d'Amarintos. Et on peut dire que c'est l'une des plus grandes découvertes ces dernières décennies en Grèce. Donc c'est vraiment, on a eu beaucoup d'articles dans les journaux aussi, donc c'est vraiment une découverte très importante.
Aujourd'hui dans Monumental, le sanctuaire d'Artémis à Marinthos, avec Sylvian Fachard, professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne.
Ce sanctuaire d'Artémis, on sait si c'est un site qui a été longtemps occupé ou finalement c'est l'avenir qui nous le dira à travers les objets que vous avez réussi à retrouver, à découvrir.
Alors le site d'Amarintos, et ça c'est un autre point d'intérêt pour nous, c'est que contrairement à d'autres sites et contrairement même au site d'Érétrie qui a connu des périodes de vide, on va dire, ou de silence, le site d'Amarintos est occupé dès la fin du néolithique. Et donc on arrive à tracer une continuité, ou quasi parfaite on va dire, entre le début du troisième millénaire et l'époque moderne. Donc c'est un des sites en EB qui a été continuellement occupé. Et c'est peut-être pas pour rien que le sanctuaire se trouve à cet endroit-là. Et le lieu a dû avoir une importance vraiment cruciale pour les Érétriens, puisqu'ils l'ont choisi comme lieu saint pour des raisons qui nous échappent encore en partie. Hein, les fouilles nous le diront. Mais on sait déjà que le site a été occupé sur une très longue durée.
Vous y étiez durant l'été. Qu'est-ce que vous avez fait sur place ?
Bon, comme j'ai dit, il y a tout un travail de préparation avant la fouille. Il y a toute une équipe sur place. J'ai mentionné la plupart de mes collègues. Donc, il y a une importante logistique. Donc, quand on va en Grèce pour la fouille, c'est un peu, dès qu'on commence à fouiller, c'est un peu le meilleur moment qui commence. Mais en amont, il y a tout un... des préparations. Donc, en tant que directeur de l'École suisse d'archéologie, il faut savoir que l'École suisse d'archéologie existe depuis 1964. C'est l'une des 17 écoles étrangères. Donc, le gouvernement grec autorise, si vous voulez, la Suisse, finalement, à fouiller sur sol grec. Et donc, c'est un privilège et il faut se montrer digne de cette confiance et de cet honneur. Et donc, il y a tout un travail qui va avec. Il y a une permanence scientifique pendant toute l'année. Donc, on parle des fouilles pendant l'été, mais il faut savoir qu'il y a des coulisses. Hein. Et il y a une équipe qui travaille derrière toute l'année. Donc, avant le début des fouilles, moi, je voyage très régulièrement en Grèce, ici plusieurs fois par mois. Et donc, il y a tout un suivi. Il faut déposer les permis 9 mois avant. Il faut soumettre des rapports. Et tout ça demande beaucoup de travail. Donc, quand on passe l'été en Grèce, c'est pas seulement sur les fouilles. Il y a tout un travail, on va dire, de gestion à conduire en parallèle.
Et les étudiants, ceux qui ont la chance de partir avec vous durant l'été ?
Oui, alors on prend des étudiants de toutes les universités suisses, donc c'est vraiment une école suisse hein, qui travaille au niveau national, donc on reçoit des candidatures, on peut pas prendre tout le monde, malheureusement, mais les activités de l'école, grâce à Amarintos, se sont multipliées, elles se sont amplifiées. Il y a encore une quinzaine d'années, on prenait 5-6 stagiaires par année, là on en est à plus de 30, peut-être même 40 après le Covid. On offre cette, je crois, opportunité exceptionnelle pour des générations d'archéologues suisses de se former en Grèce sur un site absolument exceptionnel. Et là, je crois qu'il faut vraiment remercier aussi l'État grec parce que, imaginez, confier quand même à un institut étranger la fouille d'un sanctuaire aussi important, en collaboration, bien sûr, avec le service archéologique grec. Mais il y a quand même ici le sentiment d'une philoxénie, hein, le terme philoxénie en grec, qui n'est pas juste touristique, mais qui se démontre de façon très concrète. Et je crois que le fait que la Suisse puisse fouiller ce sanctuaire, c'est un signe de cette amitié entre les deux pays. Et justement, la Grèce fête cette année 200 ans d'indépendance. Et donc, ça vient un peu sceller cette amitié, je dirais, enfin, d'un point de vue d'un archéologue.
Monumental, infotrafic.
Infotrafic RTS.
Quelle que soit votre direction, soyez vigilants. Si vous circulez sur l'axe Vevey-Fribourg, on signale des piétons sur la chaussée entre Rossan et Matran. Bienvenue à vous sur les ondes de la première. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est monumental, normalement jusqu'à 15h, mais apparemment un petit incident technique nous empêche, eh bien, dans l'immédiat de poursuivre la diffusion, la nouvelle diffusion que vous proposez, Joanne Ducey, aujourd'hui, consacrée au sanctuaire d'Artémis à Marisia, à Amarintos, en Grèce. Un voyage qui, je l'espère, va pouvoir reprendre dans quelques instants. Mais en régie, on secoue la tête de manière plutôt négative. Tout ça me laisse supposer que ce n'est donc pas pour tout de suite. Alors, puisque j'ai quelques secondes, eh bien, j'en profite pour vous donner la suite du programme. Le temps de mettre mes lunettes, si vous me laissez le faire, voilà, et de vous dire que donc, juste après Monumental, ce sera donc après les informations, plus exactement de 15h, eh bien, c'est Joanne, que dis-je, c'est Hélène Ichters, que vous retrouvez avec Playlist, suivi d'une nouvelle diffusion, ça ce sera à 16h, du Grand Soir, une émission menée tambour battant tous les soirs entre 19h et 22h par Mélanie Croubalian. Et puis enfin à 17h, ce sera la Librairie francophone, une coproduction des médias publics de langue française. Voilà pour le programme à venir. Pour l'heure, eh bien, on essaye de retrouver Monumental, une émission qui aujourd'hui, si vous étiez à l'écoute, nous emmène en Grèce. Eh bien voilà, c'est reparti. C'était le groupe Gibraltar avec un titre signé Beyrouth. Voilà pour la musique et puis pour les informations. Eh bien, excusez-nous pour cette interruption de programme qui est tout à fait indépendante. Vous vous en doutez de notre volonté. Désolé pour ceux qui ont suivi tout le début de l'émission Monumental aujourd'hui, qui était consacré à un monument en Grèce. Mais vous pouvez retrouver la fin de l'émission ainsi que d'autres informations, bien sûr, sur le Play RTS. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la radio-télévision suisse, La Première. Et puis, vous pourrez récupérer ce que vous avez manqué. Voilà, désolé encore, très bon samedi à vous. Et puisque la musique adoucit les ruptures, eh bien, allez, musique.
So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back.
You're so down, so down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? You say you love me, is it real? Or do you fantasize about the things you really wanna feel? Really wanna build on your eyes, you watching God. Baby, my eyes are hidden in the hills. Your first mistake was on me when you know I wasn't ready. You put that shit down heavy, you let you regret me. Memorize about the time you spent when you first met me. I put my shit down heavy.
Coming back sur la première, juste après les informations, c'est playlist. Mais pour l'instant, eh bien, réglez vos montres, puisqu'il est 15h.